Avec vous Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, la rage des Libanais après l'explosion du dépôt de nitrate d'ammonium du port de Beyrouth. Nathanaël Charbonnier est sur place. En Biélorussie, un scrutin présidentiel propice aux fraudes selon l'opposition, correspondance de Moscou. Festival interdit, match de football maintenu et ouvert au public. Le spectacle vivant crie à l'injustice en Hongrie. Enfin, en France, la sécheresse estivale qui vient s'ajouter aux pénuries du printemps hypothèque les récoltes. Les jeunes agriculteurs réclament une politique de gestion de l'eau. Au Liban, Julie nous le rappelait, 4 jours après l'explosion au port de Beyrouth, l'incurie du pouvoir ne cesse de blesser la population. Le dramaturge libanais Wajdi Mouawad a ses mots. C'est un point de non-retour, c'est fini, tout est détruit, même le temps, pas seulement le béton, l'avenir, il n'y a rien. Et ce rien, étrangement, au fond de l'abîme dans lequel est tombé le pays, arrive avec une clarté sidérante. Que fait-on à présent ? Fin de citation. La rue a la réponse, elle l'articule cet après-midi à Beyrouth, d'où nous appelle Nathanaël Charbonnier.
Justice pour les victimes, vengeance contre le régime, c'est avec cet appel écrit en rouge sur fond noir que les Libanais sont invités à se rassembler. Les affiches ne laissent aucun doute sur l'état d'esprit qui règne ici. D'ailleurs, le départ de la marche se fera devant la compagnie d'électricité du Liban, symbole d'un pays qui ne marche pas, puisque pour pouvoir s'éclairer, il faut en plus de son abonnement disposer de son propre groupe électrogène pour pallier les pannes récurrentes. Les affiches ne laissent aucun doute et la rage des commentaires dans la rue non plus. Les rares ministres qui ont tenté de s'approcher du centre-ville ont été éconduits. Il faut dire qu'entre corruption, incompétence, système clanique et clientélisme, le Liban ne fonctionne pas. Et si cette défaillance de l'État était acceptable jusqu'ici par habitude ou par fatalité, eh bien ce n'est plus le cas, car depuis mardi, on sait que l'incompétence tue, on sait qu'elle détruit des quartiers et des vies.
154 morts, plus de 5000 blessés et toujours selon les autorités, 60 personnes portées disparues. Demain, la France co-présidera avec les Nations Unies une visioconférence des donateurs destinée tant à mobiliser des fonds qu'à isoler des moyens pour l'acheminement de l'aide internationale. Mobilisée encore et toujours, l'opposition bulgare, quelques heures après l'intervention de la police, des centaines de manifestants anti-gouvernementaux ont réinstallé la nuit dernière des barrages routiers dans la capitale, Sofia. Il demande la démission du gouvernement de Boyko Borisov, accusé après bientôt 10 ans au pouvoir de corruption et de soumission aux milieux économiques. Boyko Borisov, encore du chemin à faire pour égaler Alexandre Loukachenko, 26 ans à la tête de la Biélorussie et en lice pour un 6e mandat. Le hiérarque a toutefois en face de lui une sérieuse candidate, Svetlana Tikhanovskaya. Depuis 5 jours, les Biélorusses peuvent déjà aller aux urnes dans le cadre d'une procédure de vote anticipé, un processus propice à la fraude que dénoncent déjà les opposants à Loukachenko. C'est une correspondance de Moscou de Claude Brouillot.
En 4 jours de vote anticipé, près du quart des 7 millions d'électeurs biélorusses inscrits auraient déjà fréquenté les urnes, selon les services présidentiels tout dévoués à Alexandre Loukachenko. Un chiffre sujet à caution, impossible à vérifier en l'absence d'observateurs internationaux pour la première fois en 20 ans et officiellement à cause du coronavirus, longtemps nié pourtant par Loukachenko en personne. Des données chiffrées d'autant plus suspectes que les urnes en question seraient impossibles à localiser. Pour tenter de contrer les fraudes électorales qui se dessinent, la principale candidate de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, a appelé tous ses sympathisants à voter le plus tard possible et à filmer leur vote en s'identifiant avec un ruban blanc au poignet, symbole d'un scrutin voulu transparent. Dans cette optique, un site internet a même été mis en place. Pas certain en revanche que ces garde-fous suffiront à lever le doute important qui plane déjà sur la régularité du scrutin.
Et fin de ce scrutin présidentiel en Biélorussie demain soir. Quand les puissants instrumentalisent la crise sanitaire, c'est à tout le moins la perception des opposants à Viktor Orban. En Hongrie, le spectacle vivant est privé de scène. Le gouvernement a en effet décidé de prolonger, au-delà du 15 août, l'interdiction des rassemblements. Quand les amateurs de football sont autorisés à s'agglutiner dans les tribunes. Coup de colère hier dans les rues de Budapest et des festivaliers et des amateurs de musique. Reportage Florence Labrouillère.
Cheveux longs et bottines noires, Sylvester est un grand amateur de rock. Il est venu manifester contre la décision d'interdire les festivals qui accueillent plus de 500 personnes alors que les matchs de foot sont autorisés.
Le gouvernement dit que c'est parce que le public consomme de l'alcool pendant les concerts, comme si les supporters de foot ne buvaient que du jus d'orange.
Cette semaine, il y a eu de nombreux matchs, avec parfois plus de 6000 spectateurs. Si les matchs sont permis, c'est pour une bonne raison, estime Laszlo, qui est infirmier.
Le sport favori du Premier ministre, c'est le foot. C'est pour ça que les matchs ont lieu. Pourquoi croyez-vous qu'on peut voyager en Croatie? C'est parce que tous les membres du gouvernement y passent leurs vacances. Ils ont leur yacht là-bas.
En tout cas, l'annulation des festivals est une catastrophe pour les musiciens. Martonello dirige Aerie Mafia, l'un des groupes hip-hop les plus connus du pays.
Cette année, on devait fêter nos 15 ans avec un nouvel album. On avait 60 concerts prévus. Le groupe fait vivre 20 personnes. Je ne vois pas comment on va survivre.
Selon le porte-parole du gouvernement, les musiciens s'en sortiront car ils vendent des disques. Mais en 2020, plus personne ne vend de disques, ont répliqué les artistes. Les concerts live représentent 90% des recettes.
Florence Labrouillère à Budapest, premier pays à avoir été touché par le Covid-19, la Chine s'est vite imposée en tant que principal fabricant de masques au monde. De mars à mai, le pays a exporté plus de 50 milliards de masques, soit 10 fois la production l'année dernière. Réglementation plus stricte, prix en chute libre, aujourd'hui les fabricants de masques chinois luttent pour survivre. Hélène Masquelier.
En février, face à l'envolée de la demande, les industriels se sont lancés dans une course effrénée à la production de masques. Avec l'épidémie jugulée sur le sol chinois et l'augmentation des cas à l'étranger, les besoins explosent et les prix s'envolent. Résultat, au premier semestre, 74 000 nouvelles sociétés se convertissent à la confection de masques en Chine. La plupart sont d'ailleurs complètement novices, hein, comme le groupe automobile BYD, devenu en l'espace de quelques semaines le plus gros fabricant mondial. D'autres encore sont des entreprises venant de l'électronique, mais aussi de l'automobile ou de la literie, qui vont se mettre à bâtir de nouvelles usines, parfois en l'espace de 10 jours. Au final, la présence de trop nombreux petits producteurs non qualifiés entraîne un effondrement des prix, et après un pic de production au mois d'avril, on voit une baisse de la qualité, une hausse des escroqueries, et le secteur en pâtit. Certaines sociétés font désormais des ventes de masques à perte, avec des prix parfois divisés par 4. La qualité de la production chinoise est également remise en cause à l'étranger, tandis que certains pays européens désormais peuvent produire leurs propres masques avec des machines achetées en Chine. Ainsi, selon le quotidien anglophone Global Times, ce sont près de 95% des fabricants chinois qui pourraient mettre la clé sous la porte d'ici à la fin de l'année. Mais malgré tout, la Chine restera le premier fournisseur mondial. De nombreux pays restent encore incapables d'assurer leur propre approvisionnement. Les commandes de la France à elle seule se sont élevées à environ 4 milliards de masques depuis le début de la crise.
En France, justement, de nombreuses grandes villes ainsi que des stations balnéaires ont imposé au cours de ces derniers jours le port du masque obligatoire dans certaines rues très fréquentées afin de limiter la propagation du virus. De nombreuses grandes villes, parmi lesquelles Marseille, a compté de ce samedi. Deux jours après que les autorités mauriciennes ont annoncé que des hydrocarbures s'écoulaient d'un vraquier échoué sur un récif depuis la fin juillet sur la côte sud-est de l'île, la France déploie des moyens depuis l'île de la Réunion afin de lutter contre la pollution marine et préserver la biodiversité. La biodiversité, justement, pour voler au secours de l'eau et des récoltes. Question prégnante en cette sécheresse estivale. Sécheresse alimentée par la canicule ambiante, sécheresse difficile à combattre, les pratiques agricoles abîment les sols. Élément de réponse avec Baptiste Gatouya, vice-président des jeunes agriculteurs.
La production animale, la production végétale, on est assez touché, hein, même les maraîchers, hein, dans des secteurs commencent aussi à souffrir. Et puis les arboriculteurs, ça viendra un petit peu après. Mais c'est vrai que on peut des fois faire face à la chaleur si on a eu une pluviométrie, on va dire normale. Mais là, ça fait beaucoup trop longtemps après la sécheresse du printemps de reprendre une sécheresse estivale. C'est difficile à vivre. Même si des fois on a de l'eau en sous-sol et de l'eau qui est tombée pendant l'hiver, bah si la couche superficielle, c'est-à-dire les 50 premiers centimètres et le mètre sont secs. Les cultures, les prés, les maïs, c'est quand même difficile de pouvoir s'adapter aussi rapidement. On a aussi besoin, en plus de notre adaptation sur nos exploitations, de pouvoir avoir des retenues collinaires, des petits bassins de rétention d'eau, des petits projets de territoire qui se mettent en place pour justement que les agriculteurs en local puissent s'organiser et irriguer quand il y a besoin des cultures de légumes, de plein champ, mais aussi pourquoi pas des prairies pour maintenir un niveau suffisant de production sur pour les vaches, pour l'élevage. Voilà, on veut une politique de gestion de l'eau parce que, à contrario, par exemple, en Seine-et-Marne, ils ont eu un excès d'eau cet hiver et au printemps, du coup, se retrouvent avec une sécheresse. Donc, il y a les deux. Ils ont été impactés par le trop d'eau et par le pas assez d'eau. Ce que l'on travaille aussi, c'est la partie génétique où les cultures, hein, pas que le maïs, pourraient demander moins d'eau pour pousser et mieux s'adapter à la sécheresse. Donc
des OGM donc, pour économiser de l'eau en quelque sorte.
Pas forcément des OGM. Hein,
c'est un mot qui peut faire OGM, peur.
En fait. C'est surtout de la sélection variétale et la recherche. On est assez bon en France et on a un secteur d'excellence en production de semences et justement de pouvoir avec la recherche trouver des variétés qui demanderaient moins d'eau pour pousser.
Des propos recueillis par Jules Dequis. Quelques mots de la météo. 53 départements sont en alerte orange canicule, 9 en alerte rouge. La nuit prochaine sera similaire à la nuit dernière, voire plus chaude. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili à la technique Jean-Guy Lamège.